Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Éducation, dialogue interculturel et citoyen, et j'ai le plaisir de recevoir ce matin Madame Josiane Sberou-Agna, qui vient d'écrire un livre, enfin qui a maintenant 2 ans, en 2023, L'école de l'exil, tribulation mitterrandienne. Dans ce livre, il y a un chapitre consacré à l'école, qui d'ailleurs a amené le titre de ce livre, un chapitre, je crois, très important. Et nous allons débuter tout de suite. Madame Sberou-Agna, vous avez été chef d'établissement dans l'éducation nationale. Vous avez travaillé, vous avez précisé un grand nombre d'années dans cette institution. Vous avez mis en place des méthodes. Vous avez l'idée de processus qui seront favorables à l'intégration, notamment de tous les enfants, mais des enfants d'immigration récente. Vous avez un diagnostic et des propositions à faire. Donc je vous remercie de commencer par rappeler un petit peu votre histoire dans cette grande institution.
Tout d'abord, bonjour. Et effectivement, c'est une histoire un peu particulière, puisque née en Tunisie et juive, donc tunisienne, j'ai eu la chance d'avoir un parcours universitaire passionnant, avec de grands maîtres comme Jean Duvigneau pour la sociologie, Gurvitch pour la sociologie. J'ai eu la chance d'avoir ces grands maîtres en professeur direct, en quelque sorte, Yankelevitch évidemment. Et je me destinais à l'écriture, à la philosophie, à des études prolongées, très loin, très, très hautement prolongées. Je n'ai pas eu cette chance, puisqu'il a fallu à un moment donné quitter la Tunisie rapidement, parce que, nous allons dire, parce qu'il n'y avait plus tellement de place pour les Juifs. La Tunisie se tunisifiait. Arrivée en France, je suis obligée de dire que pendant 5 ans, j'ai été une immigrée sans papier tunisienne, ce qui explique ensuite le parcours scolaire, en quelque sorte. Ces 5 années sans papier en France m'ont amené, pour trouver du travail, à rencontrer toutes sortes d'enfants en déshérence, dans les maisons d'enfants, dans les prisons, les foyers de filles-mères, etc. Des choses dont je n'avais pas idée, parce que fille protégée et privilégiée en Tunisie et universitaire, je ne savais pas que ces choses existaient. Quand au bout de 5 ans, je suis devenue française, j'ai tout de suite demandé ma place à l'éducation nationale. Mmh. Et là s'ajoute également ce parcours un peu particulier, c'est que parce que tunisienne, alors qu'en Tunisie j'enseignais en lycée, au lieu de me donner des enseignements en lycée, on m'a dirigée vers une structure que la France venait de créer, qui s'appelait les SES SECPA. Mmh, on venait de les créer dans les années 67-68. J'ai été écrasée parce qu'un enfant en difficulté, un enfant inadapté, je n'en avais jamais entendu parler. Mais ce fut un combat dont je tire tout ce que je sais, tout ce que je veux pour l'éducation nationale. Donc en fait, ces SES SECPA sont des structures que la France était la seule à avoir. Nous en parlerons tout à l'heure dans le cursus. Quelles sont les conclusions que j'ai tirées au sujet de l'éducation nationale ? Par comparaison entre ce que j'ai reçu et ce que j'ai trouvé ici. Ce que j'ai reçu, je faisais partie en Tunisie des enfants de l'instruction publique. L'instruction publique de Ferry, c'est-à-dire une école laïque, gratuite, obligatoire, la même pour tous. J'étais tout de même aux limites du Sahara. Je recevais exactement le même enseignement qu'un petit enfant parisien. Mmh. Nous avions les mêmes lectures. Nous avions les mêmes littératures, les Malaisacs en histoire, évidemment. Donc, cette instruction publique a fait de moi une parfaite écolière française qui avait l'impression, la sensation de participer à la nation. Et avec la réflexion ces dernières années, vu les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, il m'arrive de me dire que l'instruction publique a été le fondement, le creusot de la nation française. Puisque moi, petite africaine, petite tunisienne, je me suis sentie, je me suis vécue comme française, et en arrivant en France, je n'ai eu aucun problème pour faire partie de la nation. Les choses ont changé très brusquement en 1974. En 1974, nous avons un jeune président réformateur, très moderne, qui s'appelle Giscard d'Estaing, et qui change l'appellation. De l'instruction publique, nous passons à l'éducation nationale, instruction, éducation. Vous voyez déjà la différence de termes. Mmh. Pour Giscard d'Estaing, il y a eu des jambardements à l'éducation nationale qui sont gigantesques. Et le premier de ces jambardements, que l'on critique aujourd'hui, alors que je vais ramener une modulation, c'est le fameux collège unique. Jusqu'en 1974, on ne pouvait entrer au collège sans avoir passé un examen qui s'appelait l'examen de sixième et qui vérifiait les connaissances, lecture, écriture, système métrique, géographie, etc. Giscard d'Estaing, avec son ministre Habit, abroge l'examen de sixième et cela devient le collège unique. Au collège unique, tous les enfants de 11 ans avaient un passe-droit et entraient au collège unique. Alors, on le critique beaucoup, ce collège unique, parce qu'on en connaît mal les raisons qui étaient tout à fait honorables. En 1974, la démographie galopante faisait en sorte, et l'école obligatoire jusqu'à 15 ans, faisait en sorte que les écoles élémentaires étaient encombrées de jeunes de 13, 14 et 15 ans, garçons et filles, qui n'avaient pas passé l'examen de sixième, qui n'étaient pas en mesure de le passer. On avait supprimé l'examen de sixième et qui encombrait les cours de récréation. Donc, par le collège unique, tout enfant de 11-12 ans pouvait dire à ses petits voisins, qu'ils soient en difficulté ou pas, « Je suis au collège ». C'était extrêmement positif et intelligent. Mais le collège unique avait prévu les disparités de la population scolaire. C'est-à-dire qu'il y avait des différentes sections, les CPPN, les transitions, et pour les enfants de 2 ans de retard, il y avait ces fameuses SES-SECPA. Mmh. Donc le collège avait prévu les choses. 74. Mais pourquoi diable, cette année-là, Giscard d'Estaing s'est tellement pressé pour créer le rapprochement des familles la même année. Il avait un appétit de réforme qui était trop grand. Et il a donc mêlé les genres et il a créé la confusion. Et il a créé les problèmes dont nous ne sortons pas aujourd'hui encore. C'est-à-dire que par le rapprochement de familles, 30% d'une population non francophone primo-arrivants, on les appelait comme cela, primo-arrivants non francophones, ont débarqué dans certains lieux, pas à Paris évidemment, mais dans mon établissement par exemple, 30% d'une population scolaire nouvelle, non francophone, est arrivée. Mais ils arrivaient dans le collège unique. Ils arrivaient sans savoir un mot de français dans ce collège qui était unique. Les mettre où ? Transition, classe pratique, SECPA. On ne savait pas où les mettre en réalité. Donc on a essayé de faire de l'absorption massive, et qui dit absorption massive dans un collège unique qui venait à peine de prendre naissance, ça a été le condamné à mort d'entrée de jeu. Et je pense que c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que nous avons failli réussir la scolarité des enfants en difficulté. Donc là-dessus, ces enfants du rapprochement des familles ne venaient pas de n'importe où. C'était des enfants des papas qui travaillaient chez PSA et qui vivaient dans une horreur absolue que j'ai connue. J'y ai fait un stage pour mieux comprendre, qui s'appelait la cité d'urgence de Gennevilliers. Qui n'a pas connu les bidonvilles de la cité d'urgence de Gennevilliers ne peut pas comprendre aujourd'hui les cris d'horreur de M. Mélenchon. J'y ai fait un stage, j'y ai appris beaucoup. C'était quelque chose d'absolument abominable. Ces enfants-là, il y avait donc un sens de générosité en les acclimatant dans le tout venant, dans les petites villes, dans les communes avoisinantes de Paris. On les a absorbés un peu partout, mais c'est le collège qui en a le plus souffert. D'autant plus que nous avons une loi en France qui est très généreuse. C'est de la générosité que la France meurt très souvent. Cette loi très généreuse, qui s'appelle la loi LCO, langue et culture d'origine, nous impose dans les établissements scolaires d'enseigner à chaque enfant étranger sa langue d'origine.
Alors ça, je vous coupe, ça c'est dans la même période, la promulgation de cette loi ?
74.
D'accord.
74. Tout est arrivé en 74 en fait. Donc langue et culture d'origine, la Tunisie et l'Algérie, qui nous ont donné les plus fortes promotions d'enfants étrangers, ne pouvaient en aucun cas nous fournir d'enseignants, puisque à peine décolonisés, ils n'avaient pas d'enseignants pour eux-mêmes.
D'accord.
Et il leur est d'ailleurs arrivé la même chose que ce qui nous est arrivé. Sont arrivés dans nos établissements scolaires des flopés, non pas d'enseignants, mais d'imams, qui venaient d'Arabie Saoudite, et qui, au lieu d'enseigner l'arabe à ces petits maghrébins, leur enseignaient le Coran wahhabite, c'est-à-dire le Coran salafiste, le Coran le plus islamiste qui soit.
Alors ce que vous dites là, je l'ignorais. Je pensais que c'était plutôt des gens venus des pays d'Afrique du Nord. C'est quelque chose qu'on a retrouvé en Belgique il y a moins longtemps, où l'État avait décidé de confier l'enseignement religieux à l'Arabie Saoudite en leur demandant de maintenir la paix sociale, si vous voulez. Alors, je ne savais pas
Et
du tout
non.
que c'était l'Arabie Saoudite qui avait été sollicitée.
C'est la loi LCO qui a
D'accord.
commis des drames en Belgique aussi. En fait, on ne devait pas leur enseigner la religion, on devait leur enseigner l'arabe. Et pour moi qui parlais arabe, pour moi qui venais de Tunisie, je voyais bien que ces petits élèves, mes élèves, on leur enseignait du Coran et du Coran salafiste, que je connais, puisque venant de Tunisie, parlant arabe et ayant beaucoup, beaucoup, beaucoup de camarades musulmans, et dans mon livre, pour ceux qui le liront, vous découvrirez que j'ai même un frère musulman que nous avons adopté et que mes parents ont élevé dans sa religion musulmane. Donc je maîtrise parfaitement ces choses-là. Et nous avons dit, attention, on leur enseigne le Coran et un Coran particulier. Et on nous a dit, ce n'est pas votre problème. Parce que la loi LCO se passe dans les établissements scolaires, mais elle se règle entre le Quai d'Orsay et le ministère des Affaires étrangères du pays
Ah bon,
concerné.
d'accord.
Nous, les enseignants, nous prêtons les locaux, mais nous n'avons pas le droit de parler. Donc j'ai parlé.
Et est-ce que ce que vous
Donc j'ai
dites là est
hurlé.
toujours d'actualité en termes de fonctionnement?
Alors j'ai écrit beaucoup de livres sur ce problème. J'ai vu le ministre Peillon à l'époque qui m'a gardé plus de 2 heures pour parler de ce problème et qui a dit mais en effet, mais il est parti très vite alors qu'il pensait faire quelque chose. J'ai revu les différents ministres, puisque j'ai été chef d'établissement quand même pendant plus de 30 ans, 37 ans exactement. Au fur et à mesure, on me disait, mais Mme Sdorou, n'en faites pas un drame. Ces enfants vivent en France, ils vont s'acclimater. Non, ils ne vont pas s'acclimater. Parce qu'on leur fourrait dans la tête une théologie. Et quand vous pensez qu'au même moment, nous avons reçu Khomeini, qui lui nous a lancé la mode du voile, qui
Tout
ne
à fait.
venait pas d'Arabie Saoudite, le voile venait de chez Khomeini. Donc reprenons les choses logiquement. Donc en fait, cette loi LCO a islamisé des enfants maghrébins. Et je sais qu'elle les a islamisés, puisque moi j'ai toujours gardé le contact avec les anciens, ce que l'on appelle les Chibani, les vieux en arabe, on les appelle les Chibani, que je connais, qui me connaissent. J'ai même été élue dans ma commune pendant des années pour mes relations avec eux, et qui me regardaient en pleurant, Madame Sbérou, ils sont en train de nous voler nos enfants. Ce n'est pas notre islam. Mais je le sais que ce n'est pas votre islam. Mon frère Abdallah était musulman. Et je savais bien quelle prière il faisait, Abdallah, qui était mon frère jusqu'à l'âge de 20 ans, qui vivait à la maison avec nous. Donc en fait, la France, par sa générosité, s'est auto, je n'ose pas dire suicidée, parce qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Mais pendant 30 ans, j'ai hurlé sur ce problème de la loi LCO.
Alors,
Et il se trouve.
expliquez-nous justement quels sont les problèmes que ça a posés, pourquoi c'est un peu irréversible et comment on met ça après, on pourrait s'en sortir.
Eh bien, de 1974 à 2023, 2024, puisque c'est en 2024 que j'ai réussi à faire sauter cette loi, nous avons trois, quatre générations d'enfants musulmans du Maghreb, d'un islam ouvert, comme le judaïsme du Maghreb, c'est-à-dire on est traditionnaliste, mais on accepte l'autre, sans problème. Eh bien, ces enfants, on en a fait des salafistes. L'autre est mon ennemi. Et on s'étonne. Ces enfants-là sont aujourd'hui à Sciences Po. Ils sont à l'université. Ils sont enseignants, pour beaucoup. Donc, on a formaté leur esprit d'un esprit qui va à l'encontre du multiculturalisme. Et la France, qui est très ouverte à l'émigration, c'est un pays qui était destiné à être multiculturel. C'est-à-dire, nous vivons tous ensemble dans un respect mutuel. À partir du moment où la théocratie devient ségrégationniste, vous avez créé toute une frange de population qui n'accepte plus l'autre.
Oui, vous ne donnez pas
Et
au
le problème vient de là.
multiculturel le sens que les anglo-saxons lui donnent, hein, dans votre propos.
Bien entendu, quand je dis multiculturel, c'est ce que j'ai vécu en Tunisie. Ma copine Nejiba, ma copine Salia, etc. C'était ma copine de classe. On riait des mêmes choses.
Alors, qu'est-ce que vous
On
avez
lisait
vu?
les mêmes livres.
Comment ça se passe mal? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans le processus, dans l'éducation nationale? Qui empêche des enfants d'avancer et de s'intégrer au sens noble du terme? Et est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration ou est-ce qu'aujourd'hui on a une persistante de ce fonctionnement?
Alors, il faut peut-être pour vous faire comprendre que je continue sur le processus de l'éducation nationale. Vous
Je vous en prie.
comprendrez mieux, parce que c'est à l'éducation nationale que tout s'est passé. Si vous voulez, avec ce que je viens de vous dire, salafisme religieux et Khomeini qui introduit le voile, qui introduit la burqa, le voile. en 83, dans le collège voisin du mien, deux gamines arrivent voilées de la tête aux pieds. Ces gamines, je le dis toujours, je le hurle, n'oubliez pas qu'elles s'appelaient Lévi. C'est le nom juif le plus connu du judaïsme. Leur père était juif. Leur père était un juif communiste, leur maman était maghrébine. Leur père était un juif communiste de gauche, donc ça se comprend d'autant moins de faire voiler ses filles, de permettre à ses filles de voiler, d'être voilées. C'était en quelque sorte une provocation, une simple provocation. Leur père était président du MRAP et ensuite il a été président de la Ligue des droits de l'homme. Donc c'était une pure provocation. Mais ce voile a commencé à cheminer dans les établissements scolaires, amenant les premiers conflits internes dans les cours de récréation. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais entendu parler d'enfants différents au sein de nos établissements scolaires. Là, le ministre Jospin, c'était en 88-89, donc de 83 à 88, vous voyez, 6 années de voile contre lesquelles on s'est battu sans savoir quoi faire. Et là, le ministre Jospin est arrivé avec ce que l'on appelait la loi d'orientation, c'est-à-dire que l'enfant est au cœur du système. C'est l'enfant qui déclenche les droits, les envies, les besoins, et nous, l'enseignant, nous sommes au service de l'enfant, en quelque sorte. Donc, ces foulards, quand nous nous sommes plaints, notre ministre nous a dit « Vous devez accepter au nom du droit à l'expression, en quelque sorte. » Ce droit à l'expression commençait à atténuer le rôle de l'enseignant. Le rôle de l'enseignant, l'enseignant n'était plus maître après Dieu dans sa classe, puisque c'est l'enfant qui est au cœur du système. Et l'enfant a le droit de venir avec un foulard. Il nous a fallu attendre jusqu'en 93, où un nouveau ministre qui s'appelait Bérou, et qui s'appelle toujours Bérou, a compris tout de suite le problème. Il a réuni les chefs d'établissement, et il nous a dit une parole, vraiment une parole extraordinaire. « Vous êtes les chefs d'établissement, je suis votre patron. Donc, quelle que soit la décision que vous prendrez, je la soutiens. Conseil de discipline, je soutiens. » Et je souscris. Vous décidez en règlement intérieur d'accepter les voiles, je soutiens. Ce sera votre décision en tant que chef d'établissement. Mais vous voyez déjà qu'on a créé une disparité entre un chef d'établissement qui va être en Seine-Saint-Denis où il y a beaucoup d'enfants musulmans et un chef d'établissement qui va être assuré noyeur. Donc on commence à fragiliser encore l'éducation nationale par le rôle de l'enseignant qui n'est plus maître après Dieu, l'enfant qui est au cœur du système, et la disparité entre les règles au sein de l'éducation nationale. Donc, à partir de là, il y a une gabégie qui s'accroît avec le rôle très important qu'a pris le MRAP. Le MRAP, le mouvement théoriquement contre le racisme, qui était le mouvement contre l'antisémitisme devenu contre le racisme, un certain Mouloud Aounit, qui était le patron du MRAP, puisque M. Lévy était passé aux droits de l'homme, Monsieur Mouloud Aounit, qui était un grand ami de Tariq Ramadan, décrète dans des articles qu'il écrit, qu'il publie partout, qu'il publie à la télévision parce qu'on le voyait sans arrêt, il faudrait ramener du cachère dans les cantines. Et Mouloud Aounit est musulman. Pourquoi du cachère? Pourquoi demander du cachère quand on est musulman? Là, je me suis mise très en colère. J'écrivais beaucoup à l'époque. On me voyait très souvent à la télévision à l'époque. J'ai donc écrit un très long article en demandant à M. Mouloud Aounit de laisser les cours de récréation tranquilles et j'amenais des preuves en quelque sorte. Dans mon établissement scolaire, il y avait 800 repas à midi, tous les jours. Or, dans cet établissement scolaire, dans ce collège qui était immense, je recevais plus d'une centaine d'enfants de la maison d'enfants de Lozé, la maison d'enfants Elie Wiesel de Taverny. Je recevais une centaine d'enfants de l'OPEJ, l'œuvre de secours aux enfants juifs de Saint-Ouen-l'Aumône. Je recevais plus d'une centaine d'enfants de la communauté juive du coin. Donc sur mes 800 repas, j'avais au moins 300 repas de juifs. Mais il ne m'a même jamais effleuré en 30 ans qu'un enfant juif me demande du cachère. Mais qu'est-ce que c'est que cette salade? Un enfant juif est éduqué à la maison, la religion c'est à la maison, et la cantine te montre justement que tu n'es pas à la maison. Donc tu dis merci, tu enlèves de l'assiette ce que tu ne peux pas manger, tu dis pas ça, pas ça, tu manges ce qu'il y a dans ton assiette et le soir tu as un repas à la maison. Et c'est ce que je me suis tuée à expliquer à Mouloud Aounit, que par sa demande, je dis tu n'oses pas demander du halal, demande donc du halal, ouvertement. Ça il ne l'a pas demandé. Il a dévié en ostracisant une communauté juive qui n'avait jamais rien demandé. Vous voyez comment les problèmes d'aujourd'hui partent de l'éducation nationale et qui sont devenus de réels problèmes aujourd'hui. Vous voyez comme ils étaient en tendance petit à petit. Eh bien, Mouloud Aoudite n'a jamais compris que par les demandes qu'il faisait, il a créé un communautarisme scolaire qui n'avait jamais existé. Donc ce communautarisme arrive avec la période de l'intifada. C'est là qu'on s'aperçoit que la politique extérieure entre à l'éducation nationale. La période d'intifada, les enfants juifs, 2000, à partir de 2000, les enfants juifs commencent à connaître de gros problèmes dans les cours de récréation. Pour la première fois, à partir de 2003, 2004, 2005, un enfant est devenu juif. Mais on n'en avait jamais entendu parler à l'éducation nationale. Je vous dis, j'avais des enfants de deux maisons d'enfants juifs. Ça ne nous venait même pas à l'idée de dire que c'était des enfants juifs. Ça s'appelait les enfants de Lozé, les enfants de Lopech. C'était des élèves du collège. Donc, ces problématiques de tendance, de courant, etc., on les a fait courir à l'éducation nationale. Et je me tue depuis toutes ces années à dire à la nation française, on a tué votre éducation nationale, on a créé le communautarisme à l'éducation nationale. Voilà pourquoi on ne s'en sort pas aujourd'hui. Eh bien, ces enfants juifs,
Mais ils sont plus à
qui étaient
éducation
vraiment en
nationale,
souffrance,
justement,
eh bien
aujourd'hui.
voilà, ces enfants juifs qui étaient en souffrance terrible à l'éducation nationale, on les battait. On les faisait souffrir, on les enfermait dans les toilettes, on les cognait, c'était terrible. Donc de plus en plus souvent, les chefs d'établissement disaient aux parents, je ne peux pas le protéger, mettez-le ailleurs. Mettez-le ailleurs, attendez, au lieu de chasser le bourreau, on chasse la victime. Donc, ces enfants juifs victimes, il a fallu trouver une solution. Il y avait 40 écoles juives sur tout le territoire français dans ces années 2005. En 2010, nous sommes arrivés à 400 écoles juives. C'est-à-dire que le devenir d'un enfant juif à l'éducation nationale, c'était forcément prendre la route vers une école juive. Qu'allons-nous faire en France? Des écoles musulmanes, des écoles juives, des écoles protestantes? Et elle est où l'éducation nationale dans tout cela? Il est où le creuset de formation de tous ensemble? Donc cette destruction a été terrible. Et c'est à cette période, en 2002, qu'un historien très célèbre, Georges Bensoussan, a réuni des enseignants d'histoire qui se plaignaient de plus en plus de ne plus pouvoir enseigner la Shoah dans les classes. Et ça a été le fameux livre des territoires perdus de la République. On parle sans arrêt de Georges Bensoussan pour les territoires perdus de la République. Et moi, je dis que Georges Bensoussan a été un grand homme pour tout à fait autre chose que les territoires. Les territoires, ce sont de jeunes enseignants qui ont eu le courage de parler en ayant un pseudonyme du reste. Mais Georges Bensoussan est allé plus loin. À partir de ces territoires, il a créé une association que j'ai adorée, dans laquelle j'ai beaucoup milité, qui s'appelle PEREC, pour une école républicaine et citoyenne. En avez-vous entendu parler?
Non, j'ai entendu parler des...
C'est
nous avons entendu parler
énorme.
des territoires perdus de la
Eh ben
République et
voilà.
nous avons eu la chance
Eh ben voilà.
d'interviewer M. Bensoussan sur d'autres sujets, sur
Ben
l'histoire
voilà.
d'Israël il n'y a pas
Ce
très
qui
longtemps.
me tue, c'est qu'on a gardé seulement les territoires perdus. C'est Pérec qui a été une œuvre d'art. Pérec, il a créé cette association à travers toute la France. Nous avions une toile d'araignée d'enseignants militants pour la République à l'école. C'est-à-dire que toutes les fois qu'il y avait des problèmes dans des écoles, etc., ça remontait vers nous à Paris et cela nous permettait de nous adresser aux différents ministres, d'écrire des articles, de parler à la télévision. Ça a été un travail extraordinaire qui a réveillé il était ministre, non, il était inspecteur général, Aubin, le fameux Aubin. Aubin, à partir de ce Pérec, a fait un circuit dans toutes les écoles en France, et c'est le fameux rapport Aubin dont vous avez sûrement entendu parler.
Absolument.
Ce rapport Aubin qui reprenait dans toutes les écoles ce qui se passait. Je le connaissais, et pour mon journal à l'époque, Primo Europe, qui était un journal qui marchait fort bien, Aubin me dit, Josiane, je veux bien faire une interview pour vous. Je vais donc au ministère, dans son bureau au sixième étage, inspecteur général, c'est-à-dire un monsieur très important. Il me reçoit, il me donne une interview de 30 pages. Et il me dit, Josiane, vous prenez tout parce que demain, je ne serai pas là. 2005. Je suis enfin, monsieur Aubin, vous plaisantez. Demain, je ne suis pas là. Le ministre de l'époque s'appelait Fillon et monsieur Fillon n'a pas voulu entendre parler du rapport Aubin. Il a mis le rapport Aubin dans un tiroir et il a mis Aubin à la retraite anticipée. Donc à partir de 2005, plus personne n'a entendu parler du rapport Aubin, sauf moi, qui ai continué à diffuser, à divulguer, à en parler. Plus personne ne savait même que M. Aubin existait encore. Il y a eu aussi le rapport Ruffin à la même époque.
Tout à fait.
On a enterré les rapports. On a enterré tous les rapports. Et on a continué à chasser les enfants juifs, à chasser les enfants juifs. Ça n'était pas une œuvre d'art. Ça n'était pas du tout une œuvre d'art. Où est passée la loi LCO? En 2023 ou 2024, je devais rencontrer, en tant que vice-présidente de France Israël, je rencontre des politiques pour voir un petit peu de quelle façon on peut diriger ces amitiés de citoyen à citoyen. J'ai rencontré le jeune Gabriel Attal, qui était l'adjoint de Blanquer. C'était son premier poste. Je suis donc allée le voir avec tous les livres que j'ai écrits sur les drames de la loi LCO. Et je lui ai donné un livre en particulier où ce problème est très bien expliqué. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, vous allez faire lire ça à Monsieur Blanquer et dites-lui que c'est impératif. Je suis obligée, et je le dis et je le crie, un mois après, alors que j'ai lutté pendant 30 ans, un mois après, la loi LCO a été supprimée par Monsieur Blanquer. Je tire le chapeau.
Oui, je crois que
20 pages ont
M.
suffi.
Blanquer avait des positions très claires sur la question de la
Il
laïcité
avait une
à
idée
l'école.
très claire de son ministère, très très claire. Nous l'avons perdu, enfin nous l'avons perdu. On l'a mis au placard pour des raisons qui n'ont pas de sens. Je vais plus loin. En 2017, M. Fillon se présentait aux élections présidentielles. Il y a eu de grosses réunions électorales. Je participais à une réunion électorale qui regroupait dans un grand hôtel de Paris, du côté d'Opéra, 700 personnes. J'ai demandé la parole. Et je l'ai regardé en disant, Monsieur le ministre, vous avez été mon ministre à l'Éducation nationale. 2017, cette question me taraude depuis 2005. Pourquoi avoir supprimé le rapport Aubin? Il pâlit, il me regarde et il me dit, rapport Aubin, je ne vois pas très bien. La salle était en délire, parce que nombreux parents en 2017, tout le monde recommençait à entendre parler d'Aubin. Tonnerre d'applaudissements. Mais M. Fillon ne se souvenait plus. Il y avait à côté de lui Nathalie de Saint-Cricq, qui faisait les questionnements, qui a couru après moi, qui m'a dit, vous avez l'air de savoir beaucoup. Je dis, je sais tout. Elle m'a dit, j'aimerais bien que vous m'envoyiez tous les documents pour faire une belle émission sur France 2. J'ai envoyé tous les documents, l'émission a été interdite. Donc il a fallu arriver en 2024. Vous voyez que tous ces rapports ont creusé l'éducation nationale d'une façon terrible, ont transformé un petit peu, nous n'étions plus des transmetteurs de savoir, nous étions des clowns, nous étions des clowns qui étions là, c'est le rapport Aubin, c'est le foulard, c'est le halal à la cantine, il faut des repas végétariens, mais il est où l'enseignement? Et quand là-dessus, on a commencé, le Proche-Orient s'est projeté d'une façon terrible à l'intérieur de nos établissements. Parce que certains professeurs ont pensé intelligent d'organiser, avec des enfants de Saint-Denis et autres, des visites du côté de Ramallah. On organisait des voyages. Si je vous dis qu'un établissement scolaire du 9e arrondissement, établissement scolaire qui avait vraiment pignon sur rue, cet établissement scolaire a décidé d'un programme histoire pour les enfants de classe de 5e, c'est-à-dire 13 ans. Eh bien, ces enfants de 5e avaient comme programme aller essayer à Naplouse de repeindre les portes des maisons qui avaient été détruites par les Israéliens. Avec de tels programmes, que vouliez-vous que l'on fasse à l'éducation nationale? Donc, nous avons été dévorés par des documents. Il y a un journal qui s'appelait Le Petit Quotidien, qui était distribué à tous les élèves de toutes les écoles. Bon, ce quotidien qui faisait partie des éditions Okapi, La Croix, etc., les éditions Bon Chrétien, et bien dans le petit quotidien, tous les jours, les enfants apprenaient des choses horribles sur Israël. Tous les jours, on a écrit, on a protesté, on a expliqué qu'un petit quotidien, c'est pour apprendre aux enfants à lire l'information et pas du tout pour désinformer les enfants. Nous n'avons pas été écoutés. Des bandes dessinées qui étaient distribuées à l'école, des bandes dessinées du petit Palestinien qui, dans sa cour d'école, est écrasé par des tanks israéliens. C'est monstrueux ce qui s'est fait. On a ramené la Palestine. Pendant ce temps-là, on a oublié qu'il y avait eu des génocides en Afrique tout de même, qu'il y avait eu les Tutsis, qu'au Soudan, les chrétiens étaient dilapidés comme des moustiques. Si on avait pu parler de tous ces problèmes, on aurait montré aux enfants à l'éducation nationale que la mondialisation nous montrait que la vie était très difficile sur l'ensemble de la Terre et que notre rôle était de reconstruire. On a détruit, on a détruit, on a détruit, et on s'étonne de la gabegie d'aujourd'hui où personne ne veut écouter l'autre. L'autre est celui que je dois détruire. Et là, on rejoint largement le wokisme. Il y a les victimes et les bourreaux. Et qui se décide, je suis victime, il décide, je suis victime, il décrète que je suis victime. Eh bien, ça y est, il est reconnu comme victime. On ne peut même plus s'expliquer dans le monde d'aujourd'hui. On est déterminé sur un rôle.
Vous
Comment
parlez de la
voulez-vous éduquer?
situation dans laquelle nous qui en est, qui est très critique. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter là aujourd'hui cette
Oui,
émission
tout
sur
à fait.
l'éducation nationale et la manière dont vous avez démontré ce qui a été fait pour malheureusement vider en partie cette école républicaine de son équilibre, de sa laïcité, enfin en tout cas de l'instruction, de ce qui est fondamental, l'instruction. Ce serait intéressant de revenir sur deux choses, à travers, enfin la même chose en fait en deux points. À travers votre expérience de pédagogue et de chef d'établissement, vous avez mis en place ou recueilli et expérimenté des outils de gestion, des outils même pédagogiques concrets avec les enfants qui permettent l'intégration des enfants qui ont des problèmes de décalage, de niveau, etc. Et qui, c'est toujours une vraie question aujourd'hui pour continuer à permettre à tous les enfants d'être instruits et d'être dans une logique de projet et d'espoir. Et autrement, de revoir aujourd'hui quel serait urgemment ce qu'il faudrait faire pour que l'éducation nationale ou l'ensemble du système d'instruction français, éducationnel et les écoles privées sous contrat, comment faire pour retrouver du calme, de la sérénité et mettre en premier un enseignement qui permettrait de l'ouverture, de l'équilibre et du dialogue. Voilà ce que je vous
Je vous
propose.
remercie parce que ça me permettra de parler d'une façon plus précise de ces 30 années de SECPA qui sont pour moi le rêve de ma vie et le rêve de tout enfant qui est passé par le SECPA. Je passais dans la rue encore cette semaine, un gros camion du bâtiment s'arrête. Un sbirro, vous ne me reconnaissez pas, mes élèves sont là. Ils ont monté des entreprises, ils sont heureux. On vit ensemble, on ne s'est pas quitté. Et là, ça me permettra effectivement de parler de ce système pédagogique qui a été unique réellement.
Et puis en fait, qui peut servir à d'autres problématiques, à
Tout à
d'autres
fait,
secteurs
tout
en
à
termes
fait.
même d'âge, et qui, parce que ça reste ça la vraie question.
Tout à
Évidemment,
fait, tout à fait.
en mettant en même temps en parallèle ou en incidente la question de l'immigration aujourd'hui, la manière dont les enfants immigrés sont pris en charge en France dans ces différents systèmes scolaires. Voilà ce que je vous
Tout à fait.
propose d'ici un mois. En tout cas, voilà, je vous
Pas de
remercie
problème.
beaucoup, beaucoup, Madame Josiane Sbero, Ania, d'avoir pris un temps avec Shalom Bourgogne. Et je rappelle que vous avez publié un livre en 2023, L'école de l'exil, sous-titre Tribulation mitterranéenne aux éditions Ballan, et que dans ce livre, on reprend l'ensemble des problématiques qui ont été évoquées lors de cette émission. Voilà. À bientôt, Madame
Voilà,
Sbero.
c'était en septembre 23, exactement une semaine avant le 7 octobre. C'est ça
Voilà.
qu'il faut dire, c'est un rapprochement terrible.
À très bientôt, encore merci.
Un jour, merci.
Chers auditrices et auditeurs, vous étiez dans votre émission Éducation, dialogue interculturel et citoyen sur Shalom Bourgogne.